VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 4 décembre 2019. Il est 5h30 en temps universel. À la présentation, Nani Teutalani
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
En RDC, un numéro vert pour dénoncer les membres présumés de groupes armés.
Au Tchad, le secrétaire général de la présidence écroué pour corruption présumée.
Au Soudan, incendie d'une usine du nord de Khartoum, au moins 23 morts et plus de 130 blessés.
Au Sénégal, les chefs d'État de l'UMOA cherchent des mesures pour endiguer le terrorisme.
En Guinée-Bissau, deux anciens premiers ministres s'affrontent au second tour de la présidentielle le 29 décembre.
Aux États-Unis, destitution de Trump, les démocrates brandissent des preuves accablantes contre le président républicain.
Et symbole du rêve américain, la sénatrice Kamala Harris abandonne la primaire démocrate.
Ne manquez pas notre page sport et la Minute Éco.
Mais d'abord, le journal.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le calme est revenu hier à Beni. L'armée a mis à la disposition des habitants un numéro vert pour dénoncer les membres présumés de groupes armés. Le point avec Eddie Isango.
Le calme est revenu hier à Beni. Les commerces et les marchés ont rouvert et les taxis motos ont circulé comme d'habitude. La veille, la police a procédé à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Il y a eu 5 morts, un policier et 4 civils, selon Kumbu Ngoma, procureur militaire de Beni. Les populations ont souvent manifesté pour dénoncer l'inaction des casquets bleus et des autorités face à des massacres des civils. Beni vit dans la psychose des attaques attribuées aux rebelles ADF qui ont tué plus de 100 personnes en un mois. L'armée congolaise a assuré hier avoir tué 80 rebelles ADF, dont 4 des 6 chefs, et affirme avoir repris des bases des ADF près de Beni. Si vous voyez un visiteur sans que vous sachiez qui il est, nous vous donnons un numéro vert. Plus 243 82 08 00 05, a déclaré le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de l'armée. Il a ajouté que 8 militaires ont été lynchés en 3 jours par la population qui les avait pris pour des rebelles ADF.
L'ancien premier ministre du Tchad, Kazebe Paimi Debe, actuel secrétaire général de la présidence, a été écroué mardi selon une source judiciaire et son avocat qui parle d'un chef de tentative de détournement de fonds publics et dénonce une procédure politique. Il a été placé sous mandat de dépôt et va à la maison d'arrêt. Les charges retenues sont tentative d'escroquerie, abus de fonction, tentative de détournement de deniers publics et faux et usage de faux, a précisé son avocat Alain Kakombe. On savait que c'est un dossier politique, on s'attendait à cela. Nous sommes sereins, nous attendons que justice soit faite et nous avons les moyens de droit pour nous défendre, a commenté Maître Kagombe.
Au Soudan, au moins 23 personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées hier dans l'incendie d'une usine au nord du Khartoum. Une enquête a été ouverte. Des précisions avec Eric Manirakis.
Selon le gouvernement, cet incendie a été provoqué par l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz dans une zone industrielle. Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel durant l'incendie. Un réservoir de gaz était encore en flammes au moment où des pompiers sont entrés en action. Le gouvernement a rapporté que la propagation du feu a été facilitée par des produits inflammables mal rangés et qu'il manquait du matériel de sécurité dans l'usine. Les blessés ont été transportés vers plusieurs hôpitaux et des médecins qui étaient en repos ont été appelés en renfort. L'explosion a été forte et plusieurs véhicules garés à proximité ont aussi pris feu, a indiqué un employé d'une société voisine. Le bilan risque de s'alourdir.
Le ministre algérien de l'Intérieur, Salah Eddine Damoun, s'en est pris violemment mardi aux opposants à la présidentielle contestée du 12 décembre en Algérie, qu'il a traité de traite, mercenaire, homosexuel, inféodé, au colonialiste. Il a ensuite ajouté « Nous devons être unis et donner une leçon le 12 décembre pour démontrer l'unité du peuple algérien et protéger notre indépendance ». Diffusé par des chaînes de télévision privées, les propos du ministre qui s'exprimait devant le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, ont été immédiatement largement relayés sur les réseaux sociaux où il suscite des réactions très majoritairement scandalisées.
La version maghrébine du site d'information américain HuffPost, qui couvrait le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, a annoncé mardi sa fermeture 6 ans après son lancement. Le journal invite ses lecteurs à consulter la version américaine. Aucune explication n'a été donnée publiquement à cette décision motivée par des raisons stratégiques. Il s'agissait de la première édition africaine du HuffPost, une des figures de proue de l'information gratuite en ligne lancée en 2005.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet du 70e anniversaire de l'OTAN se termine aujourd'hui à Londres. Hier, le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont étalé leurs désaccords sur de nombreux sujets. Le point avec Lionel Gaïma.
Le président français Emmanuel Macron avait jugé que l'Alliance est un état de mort cérébrale et hier, il a maintenu ses propos. Donald Trump les a qualifiés de très insultants et de très méchants à l'adresse de 28 pays. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit lui aussi en désaccord avec le président français. Monsieur Trump a lancé une nouvelle salve contre les mauvais payeurs, notamment l'Allemagne. Il a maintenu la pression sur les alliés pour leur faire respecter l'engagement de consacrer 2% de leur PIB au budget de l'OTAN en 2024. Nous devons initier un dialogue sans naïveté avec la Russie pour réduire la conflictualité avec ce pays, a soutenu le président français. Depuis Moscou, Vladimir Poutine s'est dit prêt à coopérer avec l'Alliance Atlantique, tout en dénonçant son comportement grossier. Les dirigeants de l'OTAN réunis à Londres doivent signer aujourd'hui une déclaration qui reconnaîtra les opportunités et les défis posés par le sort de la Chine.
Ici, aux États-Unis, les élus démocrates de la Chambre des représentants ont publié hier un rapport d'enquête détaillant leurs arguments en faveur d'une destitution du président Donald Trump. Ils l'accusent d'abus de pouvoir pour avoir sollicité une ingérence étrangère, celle de l'Ukraine, dans l'élection présidentielle de novembre 2020. Le point avec Jacques Aristide.
Les démocrates majoritaires à la Chambre indiquent également que le président républicain a mis en danger la sécurité nationale et dirigé une campagne sans précédent d'obstruction aux investigations du Congrès. Ils lui reprochent d'avoir cherché à conditionner l'octroi d'une aide militaire à Kiev et une visite à la Maison-Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ouverture d'une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden, son potentiel adversaire lors de la prochaine présidentielle américaine. Le président a placé ses intérêts personnels et politiques au-dessus des intérêts nationaux, ajoutent les auteurs de ce rapport de 300 pages, qui doit servir de base à la rédaction des chefs d'accusation contre le président. Ce que la Maison-Blanche a immédiatement réfuté. Pour la porte-parole de l'exécutif, Stéphanie Grisham, l'imposture de cette enquête n'a produit aucune preuve contre Donald Trump. Ce rapport ne reflète rien d'autre que les frustrations des démocrates. Il se lit comme les divagations d'un blogueur de bas étage qui s'évertue à prouver quelque chose quand il n'y a clairement rien, dit-elle.
Entrée en fanfare dans la campagne, Kamala Harris voulait devenir la première femme noire à présider les États-Unis. Mais après une percée fulgurante, la sénatrice était retombée dans les sondages jusqu'à l'annonce surprise mardi qu'elle abandonnait la course dans la primaire démocrate, faute de moyens suffisants. Mais depuis une performance remarquée lors d'un débat qu'il avait propulsé cet été, dans le trio de tête des sondages, la sénatrice âgée de 55 ans était retombée et stagnée loin dernière. C'est l'une des plus grandes personnalités à abandonner la primaire démocrate, qui compte désormais 15 candidats en lice.
La Chambre américaine des représentants a approuvé à une majorité écrasante un projet de loi appelant à imposer des sanctions contre la Chine en raison des internements de musulmans ouïghours, provoquant la vive indignation de Pékin.
L'État de New York va examiner un projet de loi interdisant les tests de virginité après la polémique suscitée par le rappeur d'Atlanta, Clifford Harris, surnommé T.I., qui a affirmé emmener sa fille chaque année chez le gynécologue pour vérifier qu'elle était toujours vierge. La députée démocrate Michelle Solange, à l'origine du projet de loi, affirme que ces tests portent atteinte aux droits des femmes et renforcent les stéréotypes sur la sexualité féminine.
Voilà pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. C'est l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
Moroni a obtenu 3,9 milliards d'euros des bailleurs internationaux et des acteurs privés réunis à Paris pour financer un plan de développement visant à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Les partenaires publics, dont la Banque mondiale, l'ABAD, la Banque islamique, le Caire et Abu Dhabi, ont promis environ 1,44 milliard d'euros. Les acteurs du secteur privé investiront plus de 2,44 milliards d'euros. Grâce à ces investissements, le pays espère doper sa croissance à 8% en 2030 contre moins de 3% actuellement. L'économie tanzanienne connaîtra une croissance de 5,8% en 2020 contre 5,6% cette année, a annoncé la Banque mondiale. Le gouvernement tanzanien a investi des milliards de dollars dans une ambitieuse initiative d'industrialisation qui comprend une nouvelle ligne de chemin de fer, la relance de Tanzania Airlines et une centrale hydroélectrique. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se sont donnés jusqu'à janvier 2020 pour trouver un accord sur le projet de méga-barrage sur le Nil Bleu, lancé en 2011 par l'Éthiopie. Le projet sur le Nil Bleu suscite des tensions régionales, en particulier avec l'Égypte, pays aride qui dépend du Nil, pour environ 90% de ses besoins en eau.
À présent, place au sport avec Yakuba Ouédraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Commençons par le football, notamment par le Zamalek qui change son entraîneur.
Oui, le club Kairot a décidé de se séparer de son entraîneur Mitjo Srdjovic pour mauvais résultats. Il était sur la sellette depuis la défaite en ouverture de la Ligue des champions de la CAF contre le tout-puissant Mazembe. Mitjo, à la tête du club depuis juillet dernier, s'en va après 12 matchs dont 7 victoires. Pour le remplacer, le Zamalek a coché le nom de Patrice Carteron. Le technicien français est sans contrat depuis son départ du Raja Athletic Club de Casablanca. Il connaît bien l'Égypte pour y avoir déjà entraîné Wadi Degla et surtout Al Ahly.
Le Maroc remporte encore la CAN Cécifoot.
Le Maroc a remporté la compétition de football des défiants visuels et non-voyants qui a eu lieu à Enugu au Nigeria. Les Lions de l'Atlas se sont imposés en finale 5-1 devant le Mali. Les Aigles échouent encore en finale comme il y a 2 ans. Le Royaume chérifien valide du même coup son ticket pour les Jeux paralympiques Tokyo 2020. Le Malien Mamadou Thiam repart avec le soulier d'or. Il a inscrit 11 buts en 5 matchs. Le Maroc lui reste ainsi sur 4 sacres africains consécutifs 2013, 2015, 2017 et 2019.
Cap sur le Burkina Faso où Jonathan Pitropa dit stop avec les étalons.
L'international burkinabé a annoncé sa retraite internationale. Certes, la décision fut très difficile à prendre, mais il est temps pour moi d'écrire une autre page de ma vie. Ces 13 années passées en équipe nationale ont été immenses en émotions et surtout une expérience de vie incroyable, a écrit Jonathan Pitropa sur sa page Facebook. Pitropa évoluait avec les étalons depuis 2006. Il a été désigné meilleur joueur de la CAN 2013, dont il a perdu la finale en Afrique du Sud face au Nigeria. À 34 ans, Pitropa aura donc disputé son dernier match en novembre dernier à Khartoum face au Soudan du Sud, son 171e en sélection, avec une passe décisive pour Aristide Bansé lors du succès 2-0. Sa carrière professionnelle se poursuit avec le Paris FC en Ligue 2 française.
Pour terminer, Yakuba, enfin une victoire pour l'Afrique au Mondial féminin de handball.
Oui, il a fallu attendre le 4e jour de compétition et les 3e matchs de poule pour voir un succès de l'Afrique à cette Coupe du monde féminine de handball au Japon. C'est l'Angola qui sauve l'honneur pour le moment en tout cas du continent, bien aidée par leur gardienne Hélène Souza. Les Palancas ont battu la Slovénie 33-24. Par contre, la République démocratique du Congo concède sa 3e défaite de suite face à la Russie, 13-34, tout comme le Sénégal, encore défait devant l'Espagne 20-29. La compétition se poursuit ce mercredi. La Hongrie sera opposée au Sénégal et demain, la RDC affrontera la Chine, tandis que l'Angola défiera la Norvège.
Les résultats de la NBA, Detroit a surclassé Cleveland 217-94. Orlando a été sans pitié pour Washington, 127 à 110. Miami a battu Toronto, 121 à 110. Dallas a dompté New Orleans, 118 à 97. Houston a été défait par San Antonio, 133 à 135. Les Lakers de Los Angeles l'ont emporté devant Denver, 105 à 96. Et enfin, les Clippers de Los Angeles ont battu Portland, 117 à 97. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce matin. Nanit Talani toujours en votre compagnie. À présent, place à nos dossiers du jour. Première destination, le Sénégal, où se tient un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Djamnadjo à 30 km de Dakar, en présence de 6 des 8 leaders de cet espace communautaire. Ces derniers se sont résolument tournés vers des mesures plus inclusives et efficaces pour lutter contre le terrorisme. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
Ce sommet extraordinaire de l'UEMOA revêt une importance capitale pour les États membres, en témoigne la présence des présidents Roch Marc Christian Kabore du Burkina Faso, Mohamedou Issoufou du Niger, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé du Togo, Patrice Talon du Bénin et de leur homologue sénégalais Macky Sall. Ce dernier a d'ailleurs axé son intervention sur la nécessité pour eux de s'unir sur le plan sécuritaire et financier pour relever les défis auxquels ils font face.
Il nous faut renforcer ces acquis par un financement durable de nos économies afin de préserver la qualité et la soutenabilité de notre dette et surtout veiller au maintien de la paix et de la sécurité indispensable au développement de notre espace communautaire. Il s'agit de questions stratégiques qui requièrent des solutions concertées et immédiates. Voilà pourquoi, chers collègues, nous devons unir nos forces si nous voulons atteindre nos objectifs d'émergence et améliorer les conditions de vie de nos populations.
L'avis du président sénégalais est partagé par le chef de l'État ivoirien et par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Pour Alassane Dramane Ouattara, la situation que traversent les pays de l'Union rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité pour consolider les actions déjà entamées.
Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées aux problèmes de financement. Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs et durables afin de faire face à ces défis.
Joignant l'acte à la parole, les chefs d'État de l'UEMOA ont décidé d'agir de manière efficace et urgente en appuyant financièrement les pays membres engagés dans la lutte contre le terrorisme. Abdallah Bourema, président de la commission de l'UEMOA.
Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024.
Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont profité du sommet extraordinaire de Dakar pour réaffirmer leur engagement à lutter ensemble contre le terrorisme et l'insécurité afin d'atteindre les objectifs de développement qu'ils se sont fixés. À Djamnadjo, au Sénégal, Sedina Abagueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Notre deuxième dossier de ce matin nous conduit en Guinée-Bissau où deux anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalou, s'affrontent au deuxième tour de la présidentielle le 29 décembre. Ces deux produits du système vont se disputer la succession du président José Mario Vaz qui n'a pas franchi le cap du premier tour. Sur les deux candidats en lice pour second tour, Idrissa Fall a joint sur place Domingos Pereira, arrivé en tête du premier tour.
Pour moi, les élections présidentielles, c'est pas pour battre les autres candidats, c'est pour être une alternative positive envers les attentes du peuple bissau-guinéen. En tout cas, j'ai présenté un projet politique. J'ai fait de telle façon que le peuple bissau-guinéen soit informé de mon projet de l'avenir pour la Guinée-Bissau. Et sur cette base que je crois pouvoir rassembler la majorité d'approbation des électeurs bissau-guinéens envers mon projet. Mon défi, c'est d'être capable de être en mesure des attentes des Bissau-Guinéens, beaucoup plus que de me concentrer sur l'autre candidat, d'autant plus que je ne connais pas son passé politique, je ne connais pas ce qu'il propose pour la Guinée.
Vous aurez besoin d'avoir des alliances quand même, vous étiez 12 candidats. Est-ce qu'il y a déjà des candidats qui sont ralliés à votre programme?
Il y a plusieurs candidats, mais je dis depuis le début que pour moi les élections, il ne s'agit pas d'un concours entre des candidats, il s'agit d'avoir un compromis avec le peuple bissau-guinéen, et c'est sur ça que je base la stratégie de ma candidature.
Une fois que vous êtes élu, quel sera le premier et le plus grand défi auquel vous pensez que votre pays devra faire face?
Sans aucune doute, mon premier défi est d'adresser un message fort au peuple bissau-guinéen, un message qui rassure les uns et les autres, que je veux être un président de la République pour tout le peuple bissau-guinéen. Il y a un message de confiance, d'espoir, de convocation à tout l'ensemble de la population bissau-guinéenne, qu'on doit être capable de bâtir un pays qui donne à tous ses citoyens l'opportunité de réaliser leurs rêves et leurs chances.
Mais vous avez beaucoup de défis. Les fonctionnaires ne sont pas payés, tout le monde est en grève, les hôpitaux ne marchent pas, l'école, les enseignants ne savent plus donner de la tête. Vous allez commencer par quoi d'abord? Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes à résoudre.
Mon frère, en 2014, le cadre était le même. Quand j'ai pris la tête du gouvernement en juillet 2014, il y avait 7 mois d'arriéré de salaire, il n'y avait pas d'école, il y avait une menace d'Ebola, l'électricité ne marchait plus. Donc en juillet 2014, en 7 mois, on a réglé tous les arriérés, on a mis l'électricité 24 sur 24 dans la capitale, et on l'a amené à 28 autres localités de l'intérieur du pays qui ne l'avaient pas connu depuis l'indépendance. Donc, je pense que j'ai un bilan qui parle pour moi. Les Bissau-Guinéens connaissent ce bilan. Et je pense qu'une fois à la présidence de la République, je serai en condition d'ouvrir avec le gouvernement pour qu'on mette ça à l'avantage de la population bissau-guinéenne.
Domingos Simoes Pereira, candidat à la présidence de la Guinée-Bissau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Notre troisième dossier nous amène en Côte d'Ivoire où le gouvernement a adopté un projet de loi qui autorise désormais la mère d'adjoindre son nom à celui du père. Des détails avec Aïcha Diarra.
Le gouvernement ivoirien a adopté ce projet de loi autorisant désormais à la mère d'adjoindre son nom à celui du père. Cette décision concerne aussi bien les enfants nés d'une filiation légitime comme d'une filiation naturelle hors mariage. Ce dispositif autorise désormais l'enfant à porter un double nom. Les Ivoiriens, quant à eux, ont un avis partagé sur cette décision. Pour Koulibaly Moumine, il y a plus important à gérer dans ce pays qu'un problème de nom de famille.
Bon, moi je pense que vraiment il faut aller à l'essentiel. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le problème de la Côte d'Ivoire? Il y a des choses plus importantes que tout ça là. Donc moi, je ne vois pas de sens. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont décidé, mais moi, en tout cas, à mon avis, je ne vois pas d'importance.
Certains ont un sentiment partagé comme Kwame Kwaku, professeur à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Mon avis en tant qu'Africain, Ivoirien, perçoit un peu mal cette décision. L'enfant a toujours porté le nom du père. Maintenant, en tant qu'intellectuel africain, je suis de cet avis-là parce que c'est une très bonne décision. Surtout que souvent, on a des hommes irresponsables qui vont engrosser les femmes et qui disparaissent.
Pour autant, d'autres Ivoiriens beaucoup plus fermes, cette décision n'avait même pas lieu d'être. Ouattara Idriss est instituteur.
Ça m'a paru un peu bizarre, oui, parce que l'enfant a toujours porté le nom de son père. Bon, en plus du nom de son père, il ne voit pas pour le moment l'importance d'y ajouter le nom de la mère à côté. Il ne sait pas exactement ce que ça veut dire, en tout cas, il ne sait pas. En tout cas, si moi j'ai fait aujourd'hui un enfant, il ne veut pas opter immédiatement pour cette option. Oui, l'enfant portera le nom de son père que je suis. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Traoré incita va beaucoup plus loin dans son rejet car selon elle, les femmes ne sont pas toujours de bonne moralité.
Moi, ce que je peux dire, c'est pas normal. Nom de père, c'est suffisant. Parce que nous, les femmes, souvent, on est bandites.
Pour d'autres, par contre, cette décision est normale parce que l'enfant appartient aux deux parents. C'est le cas de Kofi Aya.
C'est bon, puisque c'est mon enfant aussi.
Et Diallo Anna Maria.
C'est bon, c'est une bonne idée. Oui, moi, je suis d'accord. C'est votre enfant à vous deux, donc c'est normal.
Aïcha Diarra Abouaké pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, retour sur la lutte contre le VIH, SIDA en Afrique, la région qui demeure la plus touchée dans le monde. La maladie est mieux traitée mais fait toujours de nombreuses victimes sur le continent africain. Pourquoi ? Comment également expliquer que l'épidémie affecte davantage les femmes que les hommes et quid des progrès réalisés depuis l'apparition du virus il y a près de 40 ans. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Nous allons clore notre page des dossiers par la gastronomie. Des ingrédients traditionnels pour un chocolat exceptionnel, telle est la mission que s'est assignée le chef André Bayala en créant son chocolat primé. Allons à sa rencontre dans ce sujet signé Arzuma Compaoré.
Le chef André Bayala et son équipe ne ménagent aucun effort pour confectionner des délices pour les Burkinabés. Il est actuellement le seul fabricant de chocolat du pays, mais ce qui rend ses gâteries primées vraiment spéciales est qu'il y ajoute des ingrédients de tous les jours que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest.
Nous avons la fleur d'hibiscus, ce qu'on appelle couramment le bissap, que ce soit le blanc ou le rouge. Nous utilisons également la mangue séchée, l'ananas séché. Les pétales de maïs. On utilise également l'une des dernières révolutions, le sumbala, qui joue un rôle surtout d'antidépresseur.
L'un des ingrédients favoris du chef André, c'est le moringa, une plante très recherchée pour sa capacité à guérir plusieurs maux. Aline Kankiono fournit régulièrement de la poudre de moringa au chef André.
Le moringa, c'est ici au Burkina, nous l'appelons amouré, l'arbre du paradis. Voilà, Azantira. Voilà, et toutes ces vertus viennent confirmer ce nom-là. Le moringa a tous les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance, le maintien et aussi pour soigner certaines maladies telles que la tension, le diabète et bien d'autres maladies.
C'est justement pour ces raisons que les clients de Chef André reviennent régulièrement. L'originalité. Stéphanie Zongo est une cliente régulière qui habite dans le quartier.
Quand tu aimes le chocolat et que tu entends que tu as un chocolatier chez toi, un pays qui produit à l'occurrence pas le cacao, c'est forcément la curiosité qui t'amène. Et j'étais tellement agréablement surprise parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de prendre comme chocolat. On a des goûts qui diffèrent, qui viennent vraiment de chez nous. Et forcément, c'est du chocolat qu'on aime. Et moi, je ne sais pas si c'est objectif, mais j'aime le chocolat et j'aime encore plus le chocolat de Chef André.
Mamadou Bakayoko est un client fidèle.
Le Burkina, on ne fait pas de la culture du cacao. J'ai dit, il n'y a même pas d'usine de transformation du cacao, rien du tout. Et voici un monsieur qui sort de l'ordinaire, qui est parmi les meilleurs, même en Afrique. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que c'est un génie.
Sa passion pour le chocolat a commencé quand il était un jeune garçon dans une école dirigée par des prêtres qui distribuaient des bonbons aux enfants. La cuisine fait également partie de sa famille. Son père est chef cuisinier à l'université de Ouagadougou. C'est en 2016 que Bayala a eu sa grande chance lorsqu'il a remporté le prix du meilleur chocolatier d'Afrique lors d'un concours en Côte d'Ivoire.
Après mon sacre à la compétition, je me suis rendu à Genève pour découvrir comment le chocolat était et tout ce mystère qui entoure le chocolat pour le découvrir et le ramener chez nous ici.
En plus de sa boutique qu'il a ouverte l'année dernière, Bayala envisage maintenant de financer un centre de formation culinaire au Burkina Faso. Il souhaite former de nouveaux chocolatiers et pâtissiers en transmettant ses connaissances uniques à la prochaine génération.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Bien sûr, nous n'oublions pas toute la rédaction de VOA Afrique. À la console, Jimmy Cook, Nani Totalani à la présentation depuis Washington. En restant en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.